Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite FM sur le 88.4. Marmite fait son actu, c'est l'émission qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h avec nos deux invités du jour, Arnaud Sauzéa et Ludovic Jardel du Skylab de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Skylab menacé de disparition en 2020 si l'association ne trouve pas rapidement de nouveaux locaux. On en parle tout à l'heure avec nos invités. Dans Marmite Actu, je n'oublie pas vos chroniques préférées. Gaëlle qui vous donnera la programmation du cinéma Le Grenier à sel. Cindy, avec sa critique cinéma, elle est allée voir le film d'animation Toy Story 4. Elle nous dira ce qu'elle en a pensé. La consommation responsable, c'est avec Chloé qui vous parlera hydratation et nourriture. Et le flash d'actu local à 17h30 avec Julia Mathieu. On ne change pas nos habitudes, on commence cette émission en musique et on revient juste après pour parler cinéma, musique. Marmite FM 88.4, prenez le micro, c'est votre radio, 17h passé de 5 minutes, vous écoutez bien sûr Marmite fait son actu, l'émission du mercredi, pour les retardataires, petite séance de rattrapage le vendredi de 17h à 18h. Allez, c'est parti pour le cinéma.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Gaël Pinault qui est avec nous, directeur du cinéma Le Grenier à sel. Salut Gaël.
Salut Nouradine, salut tout le monde.
Chaque semaine, tu nous présentes l'actualité puis la programmation du cinéma de proximité de Trappes. Bah, on t'écoute alors, quoi de neuf au cinéma ?
Eh bien, comme tous les ans, en été, on va fermer un petit peu pendant les vacances.
Ouais.
Je vous annonce tout de suite, on ferme pas maintenant, on ferme pas demain, hein, mais je préfère l'annoncer à l'avance. On fermera à partir du 31 juillet et on rouvrira le 21 août. Voilà, on sait que c'est une période où il y a pas grand monde et que nous du coup, ça, on travaille un petit peu pour pas grand-chose. Donc on en profite pour poser nos congés à ce moment-là. C'est une période un peu creuse. Bon, voilà. Donc,
Vous avez besoin de vacances aussi.
On a 3 semaines de fermeture. Oui, et puis le cinéma aussi et les projecteurs aussi, ils ont besoin de
se voir reposer.
C'est le moment de faire de la maintenance aussi et tout ça.
Vous sortez de la fête du cinéma ou c'est encore aujourd'hui là ?
Oui, c'est encore aujourd'hui. Jusqu'à ce soir. Donc, comme tu l'as bien noté, on change les films le mercredi. Donc, la fête du cinéma est sur 2 semaines cinéma. La semaine qui s'est terminée hier soir, où il y a eu plusieurs films, et la semaine qui commence aujourd'hui, où il y a plusieurs nouveaux films. Donc, ça permet de voir au Grenier à sel qui a une seule salle, ça permet de voir déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films. C'est 8 films. Donc pour une seule salle, c'est plutôt bien de on peut profiter de voir tous ces films-là. Je rappelle que c'est 4 euros le film, 4 euros par personne. Donc on a encore 2 films à voir ce soir à 18h45 et à 20h45. Quel film ?
Oui, alors, quel film ?
Justement,
j'ai fait les questions-réponses.
quel film ? À 18h45, nous avons Le Dain, qui est une comédie de Quentin Dupieux, dans lequel on retrouve Jean Dujardin et Adèle Hanel. Et Quentin Dupieux, c'est un cinéaste français qui a pas mal tourné aux États-Unis, mais c'est pas qu'un cinéaste, c'est aussi un musicien, puisqu'il fait de la musique électronique, Mister Oiseau notamment, je crois que c'est son nom de scène. Et donc il fait depuis quelques temps, il s'est mis au cinéma et il écrit des films, des comédies un petit peu déjanté.
Ouais, si c'est comme son, si c'est comme sa musique.
C'est voilà. Donc là, on a. Je vais juste vous dire le pitch du film Le Dain. C'est donc Jean Dujardin incarne Georges. Georges a 44 ans et son blouson 100% Dain. Georges, je recommence. Ah voilà. Parce que je voulais le faire autrement et ça veut rien dire.
T'inquiète pas, on n'est pas en direct. Non, ouais. Vas-y.
C'est pas grave. Personne n'écoute. On n'est pas en direct. Tout va bien. Je suis tout seul. Voilà. Georges, 44 ans et son blouson 100% Dain ont un projet. Ça s'appelle Le Dain, parce qu'effectivement, il y a Jean Dujardin qui a un blouson en Dain, et il se trouve hyper cool avec, et il lui arrive des tas de choses. Évidemment, le blouson en Dain, c'est le point de départ, c'est l'excuse pour plein de choses, c'est le titre du film aussi. Mm-hmm. Mais en fait, ils n'ont pas trop envie qu'on en parle, qu'on raconte tout ce qui se passe. Je trouve que le teasing est un petit peu difficile, avec Jean Dujardin et son blouson en Dain, c'est un petit peu... Mais franchement, ça mérite d'être découvert parce que ça nous emporte vraiment dans quelque chose d'incroyable. Et donc, c'est cet après-midi, ce soir-là, à 18h45, dans le cadre de la fête du cinéma à 4 euros. Mais il y a d'autres séances après qui seront un petit peu plus chères, du coup, au tarif habituel du cinéma. Qu'est-ce qu'on a encore ce soir ? Ce soir, le film de 20h45, c'est Piranhas. Piranhas, c'est un film, un drame italien interdit aux moins de 12 ans. On est à Naples aujourd'hui, à l'heure actuelle, et il y a beaucoup de mafieux, des anciens mafieux qui ont été obligés de fuir, qui sont en prison, etc. Donc en gros, le terrain est libre pour une nouvelle mafia composée de jeunes entre 10 et 15 ans qui n'ont peur de rien, qui n'ont rien à perdre, et du coup ils prennent le pouvoir laissé vacant par la mafia. C'est un film assez incroyable, une vraie plongée dans Naples et dans la mafia, avec une bande de gamins. C'est incroyable. Voilà, c'est complètement bluffant. C'est aussi surprenant parce qu'on s'attend pas à voir ça. Il y a de la violence, évidemment, c'est interdit au moins de 12 ans. Voilà, donc un film italien à découvrir ce soir à 20h45 dans le cadre de la fête du cinéma, encore une fois. Les autres films de la semaine qui, eux, ne sont pas aujourd'hui, donc qui n'ont pas... Ah si, mais c'était avant l'émission, donc c'est trop tard pour en parler. Les autres films de la semaine que vous pourrez voir aux autres tarifs, il y a Men in Black International. Alors, n'attendez pas Will Smith, parce que Will Smith, en ce moment, il est plutôt bleu, puisqu'il tourne, il est dans Aladdin. Il joue le génie dans Aladdin, mais donc il n'est pas dans Men in Black. On est toujours dans la franchise Men in Black, mais évidemment, on change de personnage, puisque là, on est dans la version internationale. Men in Black, il y a des agences dans le monde entier, et donc là, on découvre qu'ils ont un ennemi incroyable. Il y a une taupe dans les Men in Black, et c'est l'aventure, c'est le sujet de l'aventure. Donc là, ils partent, on les retrouve un petit peu à Londres, à Paris, etc.
Ils essaient de trouver la taupe.
Nous avons aussi Monsieur Link. C'était un film qu'on avait déjà passé. C'est pour les enfants. Nous, on le conseille à partir de 7 ans. Et on l'a déjà passé et on le reprend parce qu'il est vraiment chouette. Et puis c'est le début des vacances, il fallait aussi avoir une proposition pour les familles. Monsieur Link, c'est un film d'animation qui est canadien. C'est un personnage étrange, un personnage surprenant. C'est la dernière créature de son espèce et elle se sent seule et elle essaye de retrouver les autres membres de son espèce. C'est une espèce de... Il ressemble un peu à un Bigfoot, un Yeti. Il vit dans la forêt canadienne. Et pour l'aider à retrouver sa famille, son espèce, il va faire appel à un grand explorateur. Donc on est au 19e siècle. Mm-hmm. Et il y a un explorateur qui a trouvé toutes sortes de... Qui recherche un peu toutes sortes de... Le Nessie, etc. Et là, Monsieur Link, donc cette créature, fait appel à cet explorateur pour l'aider à retrouver sa famille. Et on part en voyage comme ça à travers le monde. C'est vraiment chouette, c'est très touchant, c'est très drôle aussi. Donc nous, on le conseille à partir de 7 ans. Et le dernier film de la semaine s'appelle Zombie Child. Et c'est...
j'adore les titres. Zombie Child.
Et c'est un film français. Ouais. Un drame de Bertrand Bonello. Et il y a un avertissement, puisque des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Donc comme je dis à chaque fois, c'est le petit laïus obligatoire, faut que je le dise. Et en fait, en histoire de zombies, là on est sur des vrais zombies. On n'est pas sur les zombies qu'on voit habituellement au cinéma, des Romero, des films d'horreur, etc. Là on est sur les zombies, les gens qui reviennent des morts, d'entre les morts. L'histoire commence en 1962 à Haïti. Un homme est ramené des morts, d'entre les morts, pour être renvoyé de force dans les plantations de canne à sucre. Et donc la zombification, elle commence comme ça. 55 ans plus tard, donc à l'heure actuelle, on est dans un pensionnat de la Légion étrangère à Paris, la Légion d'honneur à Paris. Et il y a une jeune adolescente haïtienne qui se fait des nouveaux amis et elle se lance dans une aventure qui va nous emmener, nous, entre Haïti et Paris et la zombification et le vaudou et tout ça.
Les vaudous et tout ça.
Ouais. Hein? Bon. Donc on n'est pas dans un film à sensation, on n'est pas dans un film d'horreur, on est plutôt dans la découverte et dans le monde de l'adolescence.
Donc c'est pas des zombies qui sortent de tombes et qui mangent tout le monde.
Non.
En gros, c'est pas ça. Ok. Ah, c'est un peu plus construit.
Bon voilà, vous retrouvez des images si ce que je vous ai dit ça vous a donné envie ou si vous avez rien compris. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet cinemagrenierasel.com.
Est-ce que t'aimes bien Toy Story
Mais oui, j'aime bien Toy Story et d'ailleurs on l'a programmé dans les prochaines semaines, vous le verrez au grenier à sel.
Le Toy Story 4?
Le 4.
Ah bah justement, Cindy, elle nous dit ce qu'elle en a pensé. C'est parti.
Bah oui, parce que moi je voulais faire du cinéma.
Hasta la vista, baby.
Rosebud. Vers l'infini.
Salut Cindy, quel est ton film d'horreur préféré ?
Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une saga chère à mon cœur, Toy Story. Le premier est sorti en 1995 et les films ont donc bercé mon enfance et ma vie de jeune adulte. Pendant des années, comme un tic, je répétais « vers l'infini et au-delà » ou « yeeha ». Du coup, j'ai couru au cinéma retrouver mes héros préférés.
Les gars, on part tous en voyage.
En voyage, mais...
Des vacances.
Et Bonnie s'est amusée en classe. Elle s'est fait un nouveau copain. J'ai le plaisir de vous présenter Fourchette.
Bonjour.
Ah oh.
C'est une cuichette.
C'est la panique.
Fais attention.
J'étais fait pour la soupe, la salade, peut-être un petit taboulé. Je ne suis pas un jouet. Je suis un déchet.
Liberté.
Oh non. Si on se dépêche, on peut le ramener. C'est le jouet préféré de Bonnie.
Woody, attends, s'il te plaît.
Pourquoi je dois être un jouet?
Il faut que tu sois conscient de la chance que tu as d'appartenir à un enfant.
Hein?
Andy, le petit garçon des premiers films, a légué ses jouets à une petite fille nommée Bonnie. Et lors de son entrée en maternelle, elle crée un jouet avec une fourchette en plastique pour se rassurer. Ce jouet, Forky, anciennement déchet, va avoir du mal à s'adapter. Woody, qui ne veut que le bien de son enfant, va s'efforcer de protéger Forky de lui-même, ce qui va amener pas mal de péripéties. Alors j'ai vraiment bien aimé le fait que la petite crée un jouet et qu'il prenne vie. C'est vraiment une bonne idée qui n'avait pas été traitée dans les autres films. On retrouve aussi d'anciens personnages qui ont bien changé et on en découvre des nouveaux. Ces nouveaux personnages sont vraiment très drôles, en particulier les deux peluches. On a un lapin bleu et un poussin jaune. Je vous laisse les découvrir lors de leur rencontre avec Buzz.
Oh, par ici le cosmonaute!
Tu crois que tu peux débouler comme ça et nous piquer nos places de premier prix? Tu te gourres!
Tu te gourres!
Aide-moi à descendre!
Oh, tu vas descendre à toutes pattes! Vers l'infini et barre-toi de là! Dans une galaxie très lointaine! Wow. Lâche-moi!
Dans l'ensemble, j'ai apprécié. Néanmoins, je regrette qu'on ne voit pas plus les anciens jouets. Alors, le duo Buzz-Woody est complètement séparé et c'est vraiment dommage. En fait, le film se concentre plus sur Woody et ses problèmes. Et surtout, je ne vous spoil rien, mais j'ai vraiment détesté la fin. Ça m'a vraiment mis un coup au moral. J'ai pas compris pourquoi ils sont partis dans cette direction. C'est peut-être dû au départ de John Lasseter, le père de Toy Story, qui a été évincé du projet suite à des affaires d'harcèlement sexuel. Bon, peut-être. Bref, le premier film restera mon préféré, donc regardez-le si ce n'est déjà fait. Et les plus jeunes aimeront tout autant. J'ai fait découvrir le 2 à ma nièce récemment et elle adore. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.
Merci Cindy, donc Toy Story 4. On retrouve Cindy la semaine prochaine pour la dernière critique ciné de la saison. Allez, sans transition, 17h, passé 18 minutes sur le 88.4. On passe aux invités de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Ah bah oui, ça arrive, hein. J'ai une horloge qui est mal réglée devant moi, qui a une heure d'avance. Mais il est 17h18, hein, je rappelle bien aux auditeurs, et pas 18h. Bonjour messieurs.
Donc, bonjour.
Arnaud Sauzéa et Ludovic Jardel, respectivement, si je dis pas de bêtises, président et vice-président du Skylab. Vous êtes avec nous notamment pour nous parler de votre recherche d'un nouveau local pour continuer les activités et les actions du Skylab. Vous êtes actuellement basé à La Verrière, mais le local dans lequel vous vous trouvez va être détruit en 2020. Et pour le moment, vous n'avez pas de solution de remplacement. Alors, avant d'aborder ce problème, est-ce que vous pourriez rappeler peut-être aux auditrices, aux auditeurs de Marmite FM, ce qu'est un Fab Lab ? Parce que le Skylab, c'est un Fab Lab. Alors, qui commence ? Arnaud, ouais.
Donc, le Fab Lab, c'est une communauté de citoyens, d'abord, qui ont envie de partager des savoirs, des savoir-faire. Mm-hmm. Donc, c'est une grosse association, puisqu'on est entre 250 et 300 personnes, qui venons partager le meilleur... des savoirs qui sont à la base souvent électroniques, mais aussi atelier bois, atelier couture. On a une diversité dans les activités. Mmh. Contrairement à une activité, par exemple, de modélisme où tout le monde est tout le temps la même association, on fait la même activité. Là, on a des adhérents qui partagent des savoirs différents et du coup ont des projets aussi mutualisés avec des sujets mutualisés. On peut associer de la couture avec de l'électronique et faire des costumes. On peut imaginer plein de choses comme ça. On a beaucoup d'activités. Donc c'est d'abord une communauté de personnes. Ensuite, c'est des lieux Donc nous, on a trois lieux, mais le principal, celui dont on vient parler aujourd'hui, c'est celui de la Verrière, le Skylab. Et on a ensuite des machines. Donc, qu'on part, et voilà. Et en dernier lieu, tout ça, c'est basé sur apprendre, faire et partager. Donc on partage nos savoirs, nos lieux, nos machines et les projets. Mmh. Voilà.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez des machines qui sont très onéreuses, hein,
oui.
Parce que voilà, on pourrait pas, en tant que particulier, si on voilà, on voulait faire, je sais pas, se lancer dans une petite construction, que ce soit en bois, en plastique ou autre. Voilà, c'est des, c'est voilà. Des machines qui sont.
L'idée, effectivement, c'est ça, c'est qu'on a des gens qui sont passionnés. Donc en général, ils peuvent avoir une machine chez eux, mais ils ont pas l'ensemble des machines.
Ouais.
Et aussi, on a des machines qui sont effectivement très onéreuses, puisque la découpe laser est aujourd'hui, on a une découpe qui permet de découper du bois, du carton, du plastique, du cuir. Ouais. C'est une machine à 14 000 euros, donc tout le monde n'a pas ça, bien évidemment. On a des imprimantes 3D, on a des machines à commande numérique pour usiner du bois et du métal, on a des tours à bois, dans l'atelier couture, c'est une brodeuse numérique, c'est une surjeteuse, c'est des outils, effectivement, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir chez soi, puisqu'on va les utiliser une fois ou deux dans l'année, et du coup, on vient les utiliser au Fab Lab.
Voilà, donc et le principe, comme vous le disiez, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent soit la couture, soit le bois ou bien l'électronique, et puis qui vont transmettre à des adhérents leur savoir-faire.
Voilà, c'est apprendre et partager. Donc du coup, on a des sessions de formation. Donc ouais. pour adapter pour chaque machine, donc les gens maintenant on est en train de constituer un passeport, donc qui permettra d'identifier quelle personne a été formée sur quelle machine, et ensuite parmi ces personnes là il y en a aussi qui sont animateurs et qui transmettent cette formation.
Depuis quand il est ouvert
On est ouvert depuis 2015.
Voilà, donc ça fait 4 ans.
Oui, on était 20 au départ et on est 300 aujourd'hui.
Alors justement, on le disait, vous êtes actuellement situé à La Verrière, près de la gare, là, juste derrière la gare de La Verrière.
Oh.
Oui, vous l'avez
dit. Oui, on est juste entre la gare et la Nationale 10, à côté de Cadence.
Voilà, donc vous aviez vos locaux ici. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement, ces locaux? En fait, ce n'est pas vos locaux spécifiquement qui vont être détruits, mais c'est toute la zone.
Oui, c'est dans le cadre du réaménagement de toute la zone de la gare routière, en fait,
ouais.
Qui est en face de la gare SNCF. Ils vont utiliser cet espace pour faire toute le parking des bus. Voilà.
Du coup, vous avez lancé des démarches, je suppose, pour avoir un autre local à Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que c'est le Sky Lab,
oui.
Comme son nom l'indique, Sky, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, quand est-ce que vous avez commencé vos démarches et qu'est-ce que vous avez eu comme retour jusqu'à présent?
Alors, les démarches, on les a commencées officiellement, je dirais, par un courrier au président de la comité d'agglomération.
Jean-Michel Fourgousse.
Oui, en décembre. Voilà, donc on a dans ce courrier rappelé que c'est un recto verso assez simple où on explique toutes nos
missions,
problématiques.
Ouais,
nos problématiques. Et en fait, tout ce qui va engager la perte de ces locaux, ce qui nous bloque aujourd'hui dans nos activités, parce qu'on est à l'étroit. En plus d'être menacé, on est aussi à l'étroit et on est un peu perdu. Donc on a demandé sur les 6 premiers mois de l'année d'avoir une occupation temporaire aussi de Cadence et des autres locaux qui sont libérés, mais on n'a pas eu de réponse même pour ça. Donc aujourd'hui...
Donc là, vous me dites aujourd'hui, mois de juillet, lettre envoyée au mois de décembre, toujours pas de réponse.
On a eu des échanges par mail avec les services techniques, mais des élus, on les a invités en février. Certains élus de la SCI sont venus le 18 février visiter les locaux parce qu'on finissait une formation pour des demandeurs d'emploi à cette époque-là dans les locaux.
Ouais.
C'est que il y a tout un volet aussi dont j'ai pas encore parlé. Là, je vous ai parlé du volet aux citoyens, mais on fait aussi beaucoup de volets sur l'éducation, les demandeurs d'emploi et les entreprises, les start-up, les artisans, les artistes. Voilà, on accueille toutes ces populations-là aussi pour des activités au Fab Lab. Mais voilà, donc on n'a pas eu de réponse non pour à ce courrier, autre que nous dire par mail, on travaille sur le sujet, on viendra vers vous quand on aura une solution. Voilà, ce qui nous choque un peu nous, c'est qu'on voudrait travailler au projet et pas découvrir la solution quand elle sera figée.
Alors, quelle surface vous faudrait-il concrètement, là? Est-ce que vous avez un chiffre à peu près? Est-ce que vous êtes un peu à l'étroit, vous le disiez, à La Verrière? Mais voilà, pour pouvoir travailler tranquillement, pour pouvoir placer toutes les machines, que ça puisse circuler, qu'il y ait des secteurs bien définis, qu'est-ce qu'il vous faudra à peu près comme surface?
Aujourd'hui, on a 250 mètres carrés en propre à nous, plus des espaces, deux grandes salles de réunion, plus un espace cuisine, un espace hall. Par rapport à nos activités, nous, on vise 1000 mètres carrés. idéalement, d'accord. On serait donc en capacité,
une surface,
ouais. Ouais, on serait en capacité de développer à la fois tout ce qui est activité pour les citoyens, mais aussi faire des hackathons pour les entreprises, trouver aussi des ressources et des activités qui nous permettent de financer notre propre lieu. Mmh. Aujourd'hui, on a des financements au démarrage de la région Île-de-France et de la Fondation Banque Populaire, de la Fondation Orange, mais depuis, on n'a pas de subvention directe. On a eu des aides quand on a fait des activités, mais aujourd'hui, on a une association qui fonctionne que sur les cotisations et on fait des activités payantes pour certaines structures.
Mmh. On va rappeler le prix de l'adhésion. Alors, qui a évolué récemment.
Il a changé le 1er juillet. Mm-hmm. Il est passé à 50 euros à l'année.
Et qu'est-ce que vous avez
fait? 20 euros pour les étudiants, demandeurs d'emploi.
Qu'est-ce que vous avez fait augmenter justement le prix de l'adhésion?
Le prix de l'adhésion, il est déjà pour sécuriser nos frais fixes. Voilà. Essentiellement, qui sont l'assurance, l'internet, un peu de prestations, voilà. Et donc on est sur une gestion rigoureuse et puis aussi, on essaye de ne pas tomber dans une difficulté financière.
Quoi. Je pense qu'il faut dire que pour 50 euros par an, on a accès permanent à l'ensemble des machines en illimité, donc c'est quand même très raisonnable.
Ça reste un prix très avantageux.
On est un des Fab Labs les moins chers de France.
Alors, on a parlé de la réponse attendue. En tout cas, vous avez quelques échanges, comme vous le disiez, avec les services techniques de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que c'est quelque chose d'intercommunal aussi, le Sky Lab. Mais est-ce que vous avez pu contacter certaines villes, directement, aller démarcher certaines villes? Bon, on ne vous dit pas de révéler forcément le nom des villes et des personnes que vous avez rencontrées, mais est-ce qu'il y a eu des contacts et est-ce qu'il y a une possibilité également de passer directement par une ville de Saint-Quentin-en-Yvelines?
Alors actuellement, on a plusieurs pistes, mais rien de signé, rien de concret. Et tant que c'est pas fait, on continue à chercher. On a des pistes à Manilhameau, à Saint-Rémy-et-Chevreuse.
À Trappes ici, si je comprends.
À Trappes, à Coignières. On s'adresse aux communes, mais pas uniquement. On s'adresse aussi à des entreprises du secteur privé, au département, à l'agglomération.
Au maximum d'interlocuteurs possibles. Oui. Alors, quelle est la date d'échéance, justement? Parce que on parle de 2020, mais c'est quand exactement?
Dans un an, on ne sait pas. On n'a pas de
d'accord. Pour l'instant. Il est possible qu'on vous demande de quitter les locaux là dans le mois?
On a une convention précaire depuis le début qu'on connaissait. On a un mois de préavis, voilà. Mais nous, les travaux, on n'a eu aucun courrier non plus de la communauté d'agglomération nous disant on commence les travaux à telle date.
D'accord.
On ne sait pas. Donc on sait que le CFA va faire sa rentrée, le centre de formation qui est juste à côté, qui est sur la même zone, qui a la même problématique que nous. Il fait sa rentrée de septembre là. Donc on nous dit vous avez un an, mais c'est des conversations orales comme ça, sur des échanges, je dirais sur le trottoir presque. Mais on n'a pas de courrier, on n'a rien, aucune information officielle.
Il est bientôt 18h, 17h décidément, je ne vais pas y arriver, j'arrête de regarder cette horloge. Il est bientôt 17h30 sur le 88.4, on va écouter Julien Mathieu pour le Flash Actu dans quelques instants. Je vous rappelle que nous sommes avec nos deux invités, Arnaud Sauzéa et Ludovic Gerdel du Skylab de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc avec nous pour parler de plusieurs choses, notamment la plus importante, c'est ce local dans lequel ils sont actuellement à La Verrière, qui va être détruit, on ne sait pas quand. Vous me la première, moi j'étais persuadé que vous aviez au moins jusqu'à mars ou avril 2020 que c'était au moins sécurisé, mais vous pouvez recevoir un courrier demain dit au mois de septembre faut y aller.
Dans la convention il y a un mois de délai.
Bon, voilà. Écoutez, vous restez avec nous, on écoute le Flash Actu de Julien Mathieu et on revient juste après avec nos invités.
Bonjour à toutes et tous, salut Noradine. La sanction est tombée à Élancourt. L'élu d'opposition d'hiver gauche, Gaël Kergutuil, a été condamné pour diffamation en 2017 pendant les élections législatives. Le Canard enchaîné publiait un article sur Jean-Michel Fourgous, un article qui faisait mention d'un contrôle de police et d'alcoolémie dont faisait l'objet le maire d'Élancourt. Gaël Kergutuil, qui faisait partie de l'équipe de Benoît Hamon, avait repris cet article pour le publier dans un tract lors de la campagne. Et cette semaine, elle a donc été condamnée à payer une amende de 2 000 euros plus 3 000 euros de dommages et intérêts. L'élu accuse Jean-Michel Fourgous de vouloir l'asphyxier financièrement. Le maire d'Elancourt, quant à lui, parle d'une décision de justice très ferme contre des méthodes déshonorantes qui l'ont, je cite, « sali et traîné dans la boue ». Mercredi dernier, une délégation de l'ambassade du Mozambique est venue à La Verrière pour récupérer 480 cartons de denrées et de vêtements. C'est l'association Les Enfants du Petit Pays qui ont réalisé cette collecte. L'initiative a été lancée au lendemain du passage d'un cyclone ayant bouleversé une région du Mozambique et la reconstruction est estimée à 3 milliards de dollars. La France a promis de donner 50 millions afin d'aider les habitants de la région. Alors chers auditeurs, si vous souhaitez aider les enfants du petit pays, vos dons sont les bienvenus. Voici l'adresse où les déposer. 11 avenue du Général Leclerc, à La Verrière donc. Et puis une adresse mail, enfants du petit pays, donc enfants au pluriel, enfantsdupetitpays@gmail.com. Et puis pour terminer, attention si vous circulez sur la N10 aux abords de Trappes, un nouveau radar a été installé, il flash par l'arrière et ne contrôle pas que la vitesse, mais aussi les téléphones à la main, les distances de sécurité et le dépassement par la droite.
Merci Julien pour ce flash actu. Nos invités Arnaud Sauzet et Ludovic Jardel du Sky Lab, donc le Fab Lab de Saint-Quentin en Yvelines, ils sont avec nous pour nous parler de leur recherche d'un nouveau local pour continuer les activités et les actions du Sky Lab. Toujours pas de réponse pour l'instant. Bon, on vous souhaite quand même de... on espère que ça va se décanter peut-être dans les semaines, les mois à venir. Ça, on verra. Alors, en attendant, vos activités se poursuivent. Et vous proposez une formation au mois de septembre, une formation hybride à la fabrication numérique en partenariat avec l'Institut des Mines Télécom. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette formation? Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement?
Oui, alors cette formation, c'est une formation innovante puisque c'est sous forme de MOOC. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien les MOOC, c'est les formations qu'on fait normalement sur Internet, chez soi, et qui c'est les massives open source de cours. Et donc ces cours-là, l'Institut Mines Télécom a dit, on va faire sur le prototypage et l'impression 3D, la fabrication numérique. Mais évidemment, l'impression 3D, tout le monde n'en a pas. Donc, ils ont eu l'idée d'essayer de concevoir une nouvelle formation, le MOOC hybride, dont là, il y a 90 heures. Donc, il y a 45 heures qui sont faites traditionnellement sur son ordinateur chez soi, d'accord, avec l'Institut Mines Télécom, et 45 heures qui sont faites dans les Fab Labs. Donc là, on est dans la phase 3 de ce MOOC hybride. On a déjà, nous, réalisé les phases 1 et 2, donc pour des demandeurs d'emploi. Donc, c'était en décembre à février de cette année-là. Et on lance la dernière phase, la phase 3, qui débutera début septembre. Et là, c'est cette formation-là est particulièrement ouverte aux salariés qui ont un compte personnel de formation, l'ancien DIF.
Ouais, le CPF, connaît, maintenant.
Le CPF, ouais. Donc voilà. Donc c'est une formation qui va former au prototypage. Et,
alors qu'est-ce que c'est le prototypage peut-être pour les... c'est peut-être une question.
Oui, bien sûr. En fait, dans le Fab Lab, comme on a dit tout à l'heure, on a des machines un peu spéciales. On a la découpe laser, l'impression 3D, et on travaille aussi sur des projets. On a l'habitude de concevoir des objets, d'accompagner des porteurs de projets. Donc c'est souvent des citoyens, mais pas uniquement. Ça peut être des startups et tout ça. Donc là, c'est ça. C'est l'idée d'acquérir des compétences, de permettre à des salariés qui veulent... soit acquérir des compétences à titre personnel par rapport à l'activité actuelle, soit changer d'activité, de travailler sur comment on conçoit un nouvel objet, comment on passe de l'idée à la fabrication en impression 3D, en découpe laser et en d'autres processus. Et voilà, il y a un accompagnement fait par deux personnes chez nous. Et ça dure donc sur 12 semaines, je crois. Et il y a un travail intensif à fournir personnel, plus une présence. Et en plus de cette dans ce cas de ces formations-là, les 90 heures, nous, on est, c'est par demi-journée, le lundi matin, ce sera le lundi matin, et le Fab Lab le mettra à disposition aussi le lundi après-midi gratuitement pour ses stagiaires.
Ceux qui veulent pratiquer un peu
voilà,
au centre.
Ouais. En plus de la formation. Ouais. Voilà, c'est une formation qui...
Alors, elle est sur 4 mois.
Ouais.
Et qui est certifiée, hein, très important.
Oui, elle est certifiée. Alors, par l'Institut.
Avec une certification.
De l'Institut des Mines Télécom, donc qui est une grande école d'ingénieurs, quand même. Qui, voilà. Et qui dispense 130 000 formations, quand même, notamment des MOOC, mais pas uniquement, évidemment. quoi dire d'autre ? Elle est à 2 900 €, mais comme on peut être financé par son CPF, il y a moyen d'avoir une formation.
Qui est financée.
Qui est financée, quoi. Mmh. Voilà.
Pour ceux qui souhaitent s'inscrire concrètement, comment ils font ? Est-ce qu'il faut passer par le site du Skylab ?
Vous avez toutes les informations sur le site du Skylab, donc skylab.fr. Mmh. Mais évidemment, vous trouverez le lien pour vous inscrire directement sur le site Énergie Télécom, donc qui est le site qui fait les inscriptions. Mmh. Voilà. Il n'y a que 2 Fab Labs dans la région Île-de-France qui vont faire cette phase 3.
Donc profitez-en. Voilà. Et surtout que ça commence en septembre, donc profitez-en pour vous inscrire rapidement, pour ceux qui souhaitent, ou bien de vous rapprocher de vos organismes formateurs, puisque ça prend toujours un petit peu financeurs, pardon, parce que ça prend toujours un petit peu de temps des fois pour la prise en charge. Un mot de conclusion, Ludovic Jardel, peut-être Arnaud Souza, pour terminer, qu'est-ce que vous voudriez envoyer comme message également sur l'antenne à ceux qui nous écoutent, et ceux peut-être potentiellement qui pourraient mettre à disposition du Skylab de Saint-Quentin-en-Yvelines des locaux.
Je pense que le mot qu'on veut faire passer, c'est qu'on cherche des locaux, on est ouvert à toute proposition, on cherche idéalement 1000 m², mais si demain on est à la rue, il est évident qu'on acceptera des locaux plus petits. On cherche sur l'agglomération, mais aussi sur des communes avoisinantes, et vraiment, on apporte une vraie valeur ajoutée, donc je pense que... il ne faut pas que les municipales, par exemple, soient un point de blocage, parce qu'on apporte quelque chose à une communauté, à une commune. On a un plus. Et on est une sorte de nouvelle forme de café du coin, où les gens viennent pour réparer quelque chose, mais aussi pour discuter, pour refaire le monde. On est un lieu de vie et un lieu d'innovation.
Et puis vous répondez à un vrai besoin de la société, on le disait, qui est de plus en plus dans le faire soi-même, dans la réparation, plutôt que la consommation d'objets, puis d'exécution, on jette, etc. Donc c'est
un vrai lieu de vie. On demande aux gens de signaler quand ils viennent. On est aujourd'hui à 400 visites par mois. Mmh. Voilà. Donc c'est des lieux animés, il y a des formations toutes les semaines. Et sur le site internet, vous avez toute la liste de toutes les activités que l'on mène, et c'est ouvert presque tous les jours.
Alors pour terminer, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent aussi en dehors de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a également 2 autres Fab Labs que...
Alors le Skylab est porté en fait par une association qui s'appelle Atlab, dont la vocation c'est la création et le développement des Fab Labs dans l'Ouest parisien. Donc on a fait ça en 2015, et on a ouvert en 2015 2 Fab Labs, celui de la Verrière, donc on a parlé aujourd'hui, et celui de Viroflay, qui est juste à côté de Versailles. Et on vient d'ouvrir le troisième au mois de mars-avril à Vélizy.
On y fait globalement la même chose qu'à la Verrière.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'adhésion à l'association, vous avez accès aux 3 lieux.
D'accord.
Voilà. Donc, les 50 euros donnent accès aux 3 lieux. Vous n'avez pas à choisir le lieu en fonction de ce qu'on y fait ou pas. Aujourd'hui, le Fab Lab de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Verrière, est celui qui a le plus de diversité dans les machines. Mais à Viroflay, il y a beaucoup d'électronique, d'informatique, de drones, beaucoup d'activités comme ça. Sur Vélizy, ils démarrent tout juste, mais ils viennent d'acheter, on vient de financer 1000 euros de machines à coudre et de surjeteuses, brodeuses. Donc il y aura cette activité-là, mais ils sont sur un territoire qui est très technologique, avec l'aérodrome et Vélizy qui est à côté. Donc il y a aussi beaucoup de répare-café, il y a beaucoup d'enclenchés sur Vélizy au programme. Ça va du répare-café à la haute technologie ou programmation, une diversité aussi.
Merci à tous les deux d'être venus au micro de Marmite FM pour nous parler de ça. J'espère que vous trouverez rapidement un local. Donc le Skylab, Ludovic Jardel et Arnaud Sauzéa qui étaient avec nous aujourd'hui en direct sur Marmite Faisson Nactu. Merci à vous deux.
Merci bien.
Allez, dernière pause musicale sur le 88.4, 17h passées de bientôt 39 minutes musique, et on revient juste après parler de consommation responsable. We'll be right back.
Sur Marmite FM 88.4. Il est 17h passé de 42 minutes. Vous écoutez bien sûr votre émission du mercredi. Marmite fait son actu. La rediffusion, c'est le vendredi de 17h à 18h. Et puis dès le jeudi, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site www.marmitefm.canalblog.com. Allez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, un petit cadeau. Ouais, je vous fais un petit cadeau, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. En tout cas, j'ai deux places pour le festival Japan Expo. Donc c'est le festival qui célèbre la culture japonaise. Alors il y en a pour tous les goûts, hein, des mangas, des animés, des jeux vidéo, de la musique, des arts traditionnels, de la gastronomie, voilà. Et vous pourrez notamment retrouver le site Kihun, le site de l'éditeur Kihun. Bah, Kihun, vous le connaissez, hein, c'est un trappiste qui a créé cette maison d'édition de manga. Voilà, vous pourrez retrouver spécifiquement ce stand, voilà, avec toutes les nouveautés Kihun. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez gagner deux places pour aller à Japan Expo, c'est du 4 au 7 juillet au parc d'exposition de Paris Nord, Villepinte. Vous nous appelez au 01 30 51 78 78. 01 30 51 7878. Si vous êtes rapide, vous le faites avant 18h, là. Sinon, eh ben, c'est ce soir à 20h dans l'antisèche, donc l'antisèche de Julien. Donc n'hésitez pas, vous nous appelez 01 30 51 7878 pour gagner ces deux places pour Japan Expo. Donc je le rappelle, c'est ce week-end du 4 au 7 juillet. Allez, on va passer maintenant à Chloé et sa chronique consommation responsable aujourd'hui. Elle nous parle du lien entre hydratation et alimentation. Et bien, quoi manger pour être bien hydraté, Chloé?
Marmite FM présente la chronique consommation responsable et développement durable avec Chloé.
Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous vous portez bien, que vous profitez du beau temps tout en respectant des consignes de sécurité liées aux grosses chaleurs et à la canicule de ces jours-ci. De mon côté, je vous parle aujourd'hui alimentation et hydratation. En effet, comment bien manger pour bien s'hydrater ? L'hydratation passe bien sûr par le fait de boire de l'eau, je précise bien sûr, mais aussi par une alimentation participant à votre hydratation. Il existe effectivement des aliments qui aident à résister à la chaleur. Gorgés d'eau, ils participent pour une grande part à l'hydratation quand il fait chaud. Et donc, nous allons voir quels sont ces aliments. Trois familles d'aliments possèdent des teneurs élevées en eau pour une meilleure hydratation. Les fruits et légumes qui contiennent entre 80 et 95% d'eau, le lait qui en contient entre 80 et 91%, ainsi que les produits laitiers de type yaourt nature et fromage frais avec 80% d'eau. Enfin, l'œuf cru entier contient lui aussi 75% d'eau. L'autre avantage de ces aliments, c'est qu'ils ne contiennent pas ou peu de matière grasse, sauf l'œuf. C'est vrai pour les fruits et légumes, mais ça l'est aussi quand on choisit des produits laitiers, de type yaourt et fromage blanc, inférieurs à 3,5 g de lipides pour 100 g. C'est donc parfait pour s'hydrater correctement tout en pensant à sa ligne. Il faut savoir que chez l'adulte, l'eau des aliments solides peut représenter 1 demi-litre par jour, entre 0,4 et 0,8 litres par jour plus exactement. Une personne qui consomme peu de fruits et légumes devra donc boire plus que celui qui en consomme beaucoup pour arriver à avoir des apports hydriques corrects. Je rappelle que les besoins totaux en eau sont en moyenne de 1,5 litre par jour pour un adulte, même si ces besoins varient selon l'âge, le sexe, la température extérieure et l'activité physique. Les autres familles d'aliments contiennent moins d'eau, entre 65 et 80% pour les poissons, de 50 à 70% pour les viandes, 35% pour le pain et autour de 10% pour les céréales. Alors ce n'est pas un hasard si les fruits et légumes sont les matières premières des boissons. En fait, ils contiennent 90 à 95% d'eau. Champion de la catégorie, le concombre, puisqu'il en contient 97%. Suivi par les salades de toutes sortes, 95% d'eau, par la tomate et la courgette qui en contiennent 94%. La cuisson, si elle fait diminuer un peu la teneur en eau, celle-ci reste quand même très élevée. Mais quand il fait chaud, on n'a plus envie de crudité. Elles contiennent effectivement le plus d'eau et conservent toutes les vitamines. Surtout si les produits sont bien cueillis fraîchement, etc., etc. Je ne reviendrai pas là-dessus. Le corps sait très bien repérer ce dont il a besoin. Il faut savoir l'écouter. Les fibres contenues dans les légumes auront un effet rassasiant intéressant qui se rajoute à l'hydratation. Les fruits, quant à eux, contiennent 85 à 90% d'eau. Les fruits frais sont les plus hydratants et représentent 95% des fruits. Ce sont les fruits à jus, comme le melon et la pastèque. Ensuite viennent les agrumes, puis les fruits sucrés comme les pêches, les abricots, bref, tous les fruits à noyaux. Puis enfin, les fruits fortement sucrés comme le raisin, les bananes et les dattes. Tous les autres, les fruits secs, les châtaignes, les marrons, les avocats même, ne contiennent pas beaucoup d'eau. Ces fruits, plus que les légumes, se consomment crus. Ils sont parfaits pour les fibres et les vitamines. Deuxième aliment qui contient beaucoup d'eau, on va parler du lait et des produits laitiers. En effet, le lait contient entre 80 et 90% d'eau selon qu'il est entier ou écrémé. Forcément, les laitages et les fromages frais vont aussi avoir une teneur intéressante en eau. Pour les laitages, plus ils sont écrémés, plus ils contiennent de l'eau. Pour les fromages frais, la teneur en eau baisse un peu mais reste très intéressante avec pour champion la ricotta avec 72,7% d'eau. En plus, elle est très pauvre en matière grasse, donc c'est parfait. Donc oui, comme je vous disais, ces fromages, ils sont allégés en matière grasse, ils sont plus riches en eau. Fromage de chèvre à tartiner, fromage de chèvre frais, tout ça, ça contient plus de 65% d'eau. Ce qui est intéressant également, c'est que ces produits sont quasiment toujours servis froids et que cette fraîcheur fait partie des bienfaits de l'hydratation. C'est pour cela d'ailleurs que l'on donne des yaourts frais aux personnes âgées quand il fait très chaud et qu'elles s'hydratent mal et qu'elles n'ont pas très faim, ce qui est un peu en fait le cas de tout le monde quand il fait vraiment chaud. Voilà, avec tout ça, j'espère que vous passerez une bonne semaine, certes chaude, mais faites-vous plaisir aussi en mangeant ces aliments rafraîchissants en complément de l'eau à boire régulièrement toute la journée avant d'avoir soif. Bon après-midi à vous sur Marmite FM et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Chloé. Allez, je vous le rappelle une dernière fois, puisque c'est déjà la fin de cette émission. Marmite FM vous fait gagner 2 places pour la Japan Expo. Japan Expo, c'est le rendez-vous incontournable des amoureux de la culture japonaise. Donc n'hésitez pas et surtout, vous pouvez faire un petit tour du côté du stand Kihun. Alors, stand Kihun, c'est un éditeur Made in Trap, 100% trappiste, qui est maintenant, dont les locaux sont maintenant à Paris, mais voilà, qui a créé Kihun ici à Trap. Donc n'hésitez pas, 2 places qui vous sont offertes par Marmite FM pour la Japan Expo du 4 au 7 juillet. Et devinez où est-ce que vous pouvez les gagner ce soir à 20h pétante sur l'Antisèche. Donc vous écoutez l'Antisèche de 20h à 21h, Julien avec ses chroniqueuses, ses chroniqueurs. Et en plus, je laisse Julien, comme je suis, j'ai bon cœur aujourd'hui, je laisse Julien choisir la question qui fera gagner les 2 places pour Japan Expo. Donc voilà. En tout cas, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. C'est fini pour Marmite Actu. Merci à Julien et à Mokhtar, aujourd'hui invité spécial de la technique pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Je vous laisse avec Jean-François. Le temps ne fait rien à l'affaire. Et n'oubliez pas, ce soir, 20h, l'Antisèche en direct. À la semaine prochaine.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.